Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
Vous écoutez Martino. Cube Radio.
Alors, Nancy Audet est une fille que j'aime beaucoup. On la connaît, bien sûr, journaliste sportive à TVA Sport, mais on a appris, elle a écrit un livre qui était extrêmement touchant sur son enfance, où elle avait subi de la violence psychologique de la part de sa mère, agressée sexuellement par un voisin, a été accueillie par une famille d'accueil, et elle prend ça maintenant très à cœur. Elle a animé cette série documentaire « Être famille d'accueil » sur Moins Compagnie, qui était très touchante. Elle prend vraiment sous son aile les enfants de la DPJ. Elle se bat pour eux autres. Et elle a écrit sur sa page Facebook un message qui m'a vraiment bouleversé. Parce que je trouve que moi, c'est très difficile pour... surtout pour les jeunes, cette pandémie-là. On leur vole leur jeunesse. Et elle a écrit, ma belle et grande ado, ma belle et grande ado est sortie du confinement hier après 16 jours enfermée dans une chambre de son foyer de groupe. Elle a célébré le jour de l'an seule. Cet enfant qui a vécu déjà tant d'épreuves dans sa vie a beaucoup pleuré. Il faut que ça cesse. Nancy Audet avec nous. Bonjour, Nancy.
Bonjour, Richard.
C'est dur pour les jeunes, cette pandémie-là. Hein? Moi, rester chez moi, puis lire, puis regarder la télévision, c'est pas un drame. Là. Mais quand t'es jeune, bordel, c'est dur.
C'est terrible. C'est terrible. Puis je crois qu'on est tellement, pour une bonne partie de la population qui est quand même assez privilégiée, pour ceux, on le dit souvent, qui ont une grande maison, une cour, pour qui ça peut être pas facile, la pandémie, mais disons plus facile que les autres. On oublie que il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui vivent au Québec dans des situations pas mal moins privilégiées. Des familles dans un 4,5 avec 4 enfants, beaucoup d'enfants, des centaines, des milliers d'enfants au Québec qui habitent dans des foyers de groupe, dans des centres jeunesse, qui sont entassés dans les unités plus que jamais, parce qu'en ce moment, Richard, ça déborde.
Ah ouais.
Il y a eu... c'est terrible. Je pense que les gens n'ont pas idée de ce qui se passe en ce moment. Comme les dossiers sont confidentiels, hein, on rentre pas dans les centres jeunesse, on sait pas ce qui se passe, mais on ne sait plus où mettre les enfants. Ce n'est pas compliqué. Il y a eu un record en 2021 de signalements. C'est plus de 122 000 signalements au Québec. C'est énorme, c'est inquiétant. Et les signalements qui sont retenus aussi sont en augmentation. Donc, ces enfants-là, faut les mettre à quelque part. Donc, on les entasse dans des unités. Donc, quand il y a un cas de COVID, parfois c'est même un intervenant hein, qui ramène ça de la maison. Dans le temps des fêtes, si je vous donne un exemple, on dit aux gens, vous n'avez pas le droit d'avoir de visite, vous allez passer Noël tout seul. Mais il y a des intervenants qui, eux, vont dans leur famille et ont ramené la COVID dans les unités. Et là, on a isolé les enfants dans leur chambre. OK? Et il y a des unités où... les enfants ont tellement été isolés longtemps qu'on a mis des plastiques dans les portes de chambre pour au moins leur permettre de voir à l'extérieur parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans les portes.
Voyons donc,
Nancy. Mais oui, Richard. Mais oui, c'est ça qui se passe chez nous. Pourquoi on n'en parle pas? Et là, on met des plastiques pour qu'au moins ils puissent voir d'autres êtres humains. Donc, dans le cas de ma grande ado, c'est ce qui est arrivé. Il y a quelqu'un de l'extérieur qui a amené la COVID. Il y a des jeunes qui, à l'intérieur, ont été infectés. Elle ne l'a pas été, mais elle a été toute seule enfermée dans sa chambre durant 16 jours. Et elle a passé le jour de l'an toute seule.
Mais voyons donc, comme si elle était en prison, on dit.
Elle était en prison. J'ai même pas eu le droit d'aller la voir. Je suis allée sur le trottoir. Elle a même pas eu le droit de sortir à l'extérieur me dire bonjour parce que je suis allée porter ses cadeaux. Je veux dire... C'est épouvantable, là. On pouvait même pas se voir visage à visage. Donc, tu sais, c'est terrible qu'on leur fait vivre. Faut que ça cesse, OK? Cette petite fille-là qui a subi, qui a été prise en charge par le système à sa naissance, faut dire, toute sa vie, elle a passé dans le système. Elle a vécu plus d'épreuves que toutes les personnes que je connais réunies ensemble. C'est une jeune femme très forte, malgré tout. Et de l'entendre pleurer comme ça au téléphone, m'appeler, de la sentir aussi brisée, fragile, ça m'a atteint énormément. Je trouve qu'elle mérite pas ça. Elle n'est pas la seule. Ces enfants-là ne méritent pas ça. Il faut que ça arrête.
Écoute,
on est en train de les briser.
Il y a des criminels qui ont commis des crimes graves et qui ont quand même, qui goûtent plus à la liberté que cette jeune fille-là. Elle faisait quoi de ses journées pendant 16 jours?
Mais rien, Richard, rien. Qu'est-ce qu'on fait dans une chambre? Je lui demandais, elle disait, ben, j'écoute de la musique, je fais des vidéos TikTok. Heureusement, au moins, elle a un ordinateur parce qu'elle est privilégiée. Il y en a beaucoup de jeunes qui n'en ont pas, qui peuvent même pas communiquer avec l'extérieur. Mais... En plus, on leur enlève leur téléphone. C'est ça, hein, le soir, on leur enlève leur téléphone. Ils ne peuvent plus communiquer avec l'extérieur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai apporté des casse-têtes aux intervenants. Là, dehors, ils sont sortis dehors, puis ils ont pris des trucs que j'y apportais pour qu'elle puisse s'occuper un peu. Mais c'est triste.
Mais il y a combien d'enfants de 16 ans qui sont morts de la COVID? Voyons donc, elle n'est pas à risque. Voyons.
Mais là, je vous parle d'une adolescente, mais vous savez qu'il y a eu des groupes de petits garçons à 6, 7, 8, 9 ans qui ont été en confinement durant tout le temps des fêtes dans leur chambre, là. Des petits, petits garçons, là, qu'on a isolés de tout le monde, là, pendant 2 semaines. Les intervenants ont essayé d'être là pour eux, mais ça leur brisait le cœur. Vous imaginez faire ça à des petits-enfants comme ça dans le temps des fêtes qui déjà, bordel! Passe Noël tout seul, Richard. Ils ont pas de famille. Puis on les isole dans leur chambre durant toute la période des fêtes. Moi, je dis, OK, là, on est en train de virer fou. OK, là, ça suffit. Là.
Mais merci, Nancy, de le dire. Là, tu dis, là, à un moment donné, c'est de la cruauté mentale, là, faire ça.
Oui, mais oui. Déjà, là, dans ces unités-là, Richard, là, moi, je suis allée souvent. Puis un jour, j'ai été interpellée parce qu'il n'y a pas de rideau aux fenêtres dans les chambres des petits garçons. Et j'ai demandé à l'intervenante, ben voyons, pourquoi les garçons n'ont pas de rideau dans leurs petites fenêtres, en plus, petites fenêtres. Elle dit, ben parce que c'est trop dangereux. Il y a trop de petits garçons qui ont essayé de s'enlever la vie dans leur chambre avec leur rideau. Fait que maintenant, on met des rideaux, tu sais, qu'on peut arracher, là, des... comment on appelle ça?
Mais c'est un drame épouvantable.
Pour que ça arrive. Et là, vous me dites ça, que déjà, ils sont tellement fragiles. Ça, c'était avant la pandémie, qu'on ne pouvait pas mettre de rideau dans leur chambre. Et là, on les isole comme ça. Non, mais là, sérieusement, on est en train de virer complètement fou. Donc, moi, je c'est un peu un cri du cœur pour dire, OK, là, on faut qu'on laisse nos enfants tranquilles.
Mais les intervenants, ils pensent quoi de ça, eux autres? Est-ce qu'ils sont d'accord avec ce genre de règlement-là ou ils sont obligés de les appliquer?
Ben, ils sont obligés. Ils sont obligés. Ça leur brise le cœur, là, je vous le dis. Mais vous savez, depuis les fameuses fusions, c'est plus les directions qui décident, hein, des établissements. Les mesures viennent d'en haut. C'est maintenant dans la grosse structure du CIUSSS. Donc, les demandes, les mesures viennent d'en haut. Elles sont pas adaptées du tout aux besoins des enfants, encore moins les besoins des enfants qui sont en centre jeunesse. Et donc, ça descend. Et là, les chefs d'équipe disent aux intervenants, bon, on n'a pas le choix, ça vient d'en haut, il faut faire ça. Mais jamais eux auraient pensé ou auraient pensé un seul instant que c'était une mesure qui pouvait être mise en place pour ces enfants-là. C'est impossible. Là. Ça ne se fait pas. Donc, on tente. On n'a pas le choix. Ils n'ont pas le choix de toute façon. Ça vient d'en haut. C'est comment ça se passe. Hein?
Non, mais on est en train de virer fou. Là. Je veux dire, vraiment, là, ces gens-là, ces pauvres enfants-là, déjà, là, que c'est difficile pour eux. C'est comme si on les punissait quasiment de la COVID. Écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce que, bon, t'as publié ce texte-là? Toi, t'oses parler, t'es une personne publique. Y a-tu d'autres gens qui t'ont appuyé puis qui disent, bon, on veut mener cette cause-là? Là, on veut que les gens l'entendent?
Ben, je fais toujours attention parce que il y a beaucoup de peur, hein, dans le milieu de la DPJ. J'ai la chance de connaître beaucoup, beaucoup d'intervenants. On se parle souvent et je leur dis toujours, vous savez, moi, je vais toujours vous protéger. Moi, je veux porter la voix des enfants. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Donc, sachez que je vais toujours, jamais, je vais donner de nom. Jamais je vais permettre que votre identité, parce que c'est précieux ce que vous m'apportez comme information. Puis moi, je leur demande aussi d'amener ces informations-là à un plus haut niveau. Il y a plein d'histoires, hein, vous savez, qui sont assez préoccupantes. Tu sais, je pensais juste avant Noël, quand on a encore décidé de fermer les écoles, Richard, J'ai toujours une boule dans le ventre, OK, quand on annonce ça. Parce que je me souviens que moi, la petite Nancy, quand les vacances scolaires arrivaient, je voyais tous mes petits amis heureux. Puis moi, souvent, j'allais me cacher pour pleurer. Puis les gens comprenaient pas. C'est que pour moi, ben les vacances scolaires, c'était pas un beau moment à passer.
Ben non.
Et on oublie, tu comprends, c'est la même chose pour les vacances scolaires l'été. Il y a beaucoup d'enfants pour qui l'école, c'est un lieu où ils sont protégés. C'est le seul endroit où ils peuvent manger à leur faim, où ils savent que leur intégrité est protégée, physique, psychologique, et que quand ils retournent à la maison, ben là, ils sont plus en danger. OK, ils vivent beaucoup de violence. Donc là, encore
ben oui,
une fois,
pour
on
eux
a
autres,
décidé de fermer les écoles. Je savais ce qui s'en venait là pour des centaines d'enfants. Tu
ben
vois,
oui, puis écoute, je parlais à quelqu'un du DPCP, une amie qui travaille au DPCP, puis elle a dit pendant cette période-là, où il n'y avait pas d'école, si tu savais le nombre de signalements qu'il y a eu là d'agressions sexuelles contre des enfants, puis tout ça, elle dit ça a explosé. Parce que justement, ces enfants-là pouvaient pas s'extirper de leur milieu familial toxique. Tu me bouleverses ce matin. Merci beaucoup, Nancy Audet, d'avoir écrit ça. Puis allez sur sa page Facebook à Nancy, lisez ça. Ça n'a pas de sens. Il faut effectivement que ça cesse. Merci beaucoup, Nancy.
Bonne journée.
Merci, bonne journée, Nancy Audet. C'est tout le temps qu'il nous reste. Merci à la fabuleuse équipe Florence Lamoureux à la recherche et Alexandre Moranville-Wallet. Merci beaucoup. Charlie Marchand à la régie. Il doit être déçu. Sa première tempête, une tempinette. C'est dur. Je pense qu'il neige même plus. Pauvre Charlie. Il s'attendait. Lui, il était prêt. Là. Il avait attelé ses chiens là, puis tout ça, là, avec son traîneau à chien tout ça. Ben non. C'est une petite tempinette. Alors, c'est Benoît qui prend la relève. Je parle à Benoît à midi. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.